philosophie du vivant par le père Louis-Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Or, le 2 mars 95.
Est-ce qu'on devient de plus en plus parce qu'on est attentif. Mais il y a plutôt, avec la vieillesse, un déclin des sens. Tu vois, c'est un déclin très curieux, parce que c'est un déclin organique. C'est les organes qui s'usent. Il y a une attention plus grande. De sorte qu'il y a une espèce de finesse des sensations qui se fait avec la vieillesse. Toujours intéressant de voir le point de départ et le terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un développement de l'imagination, de la mémoire. Et ce développement d'imagination et de la mémoire prépare l'éveil de l'intelligence.
Ça
je crois qu'on peut l'affirmer nettement. À partir même de ma vie intellectuelle. Et je peux comprendre que ce devenir de l'intelligence est toujours présent. Je progresse tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. Je ne peux jamais dire c'est assez. En science, on peut chercher indéfiniment, avec des précisions nouvelles, éviter toutes les confusions, tous les petits blocages qu'on fait au point de départ. Parce que c'est le tout. Puis on analyse. Et en philosophie, on affine toujours plus. On découvre toujours plus. Si on est éveillé à la recherche de la vérité. Parce que l'intelligence est libre par rapport aux organes corporels. Donc si elle est libre, elle ne vieillit pas. Mais elle vieillit à cause de mon corps. Qui fait que la vieillesse peut amener une vulnérabilité plus grande par rapport aux maladies. On a moins d'énergie vitale, mais on n'a pas moins d'énergie spirituelle. Donc les énergies vitales au niveau biologique diminuent, ça c'est sûr. Les énergies spirituelles ne diminuent pas. Au contraire, elles vont toujours plus loin, et elles sont toujours plus exigeantes. Jusqu'au jour où le poids du corps est tellement fort, qui sait, c'est la pierre tombale. Alors là, c'est la pierre tombale. Et on tombe dans le coma. Alors évidemment, c'est parce que les énergies vitales ne sont plus en harmonie, comme une espèce d'empoisonnement intérieur, qui fait qu'on ne peut plus. Vous voyez ? Pour connaître le devenir, il faut toujours regarder le terme. Si c'est normal, une croissance c'est comme ça, je ne sais pas la croissance d'un être si je ne sais pas son terme. Je ne peux rien dire. Mais la croissance de l'homme, je sais quand même comment beaucoup d'hommes terminent leur vie, ou d'une façon violente, ou d'une façon paisible, en s'endormant. Progressivement et en s'éveillant progressivement, en étant de plus en plus éveillé ou de plus en plus somnambule, et il a 5 minutes de clarté par jour, il faut tomber au bon moment, et le reste il est dans le brouillard. Et c'est vrai ça, des gens qu'on a beaucoup aimés qu'on voit comme ça. C'est fort terrible. 5 minutes de lucidité, puis après, l'imaginaire l'emporte, la mémoire l'emporte, et l'intelligence n'a plus cette vitalité. Alors, à quel moment, posez-vous la question, à quel moment l'intelligence fait ce dépassement, c'est-à-dire est capable de se servir de l'imaginaire, est capable de se servir de la mémoire, est capable de se servir de la cogitative pour la dépasser et atteindre ce qui est en tant qu'il est, ce qui est l'autre. Et c'est très curieux que la découverte de l'éveil de l'intelligence et du jugement d'existence se fait dans cette découverte de l'autre. Ça, je crois que tant qu'il n'y a pas de jugement d'existence, l'autre n'apparaît pas. Alors, génétiquement, hein, je dis bien génétiquement, l'immanence de ma vie est première. L'immanence de ma vie végétative, de ma vie passionnelle, et dès que l'intelligence est présente, il y a découverte de quelque chose qui n'est pas moi, qui me transcende, qui me dépasse. Alors, ce serait intéressant. noter, vous voyez, tous les signes de cet éveil de l'intelligence. L'autre, le dépassement d'immanence dans l'autre, et ce qui implique le jugement d'existence, pas nécessairement d'une manière tout à fait explicite. Quand Lévinas cherche à découvrir l'autre, il ne parle pas du jugement d'existence, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la métaphysique. Alors que je crois que s'il savait que l'autre apparaît dans le jugement d'existence, il pourrait découvrir cette connaissance de l'autre. Tandis qu'il cherche la connaissance de l'autre par l'affectivité, et non plus par le jugement d'existence. Alors par l'affectivité, je crois que l'autre, c'est l'ami, et c'est donc un autre moi-même. Et c'est ça qui fait que c'est si difficile à découvrir l'autre. C'est un autre moi-même, donc je me projette dans l'autre. C'est le jugement d'existence qui seul permet de découvrir le transcendant. C'est découvrir quelque chose qui est irréductible à moi. Alors, est-ce que le jugement d'existence et l'autre se découvrent en premier lieu par le corps? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est des sensations de toucher qui me font découvrir en premier lieu. La sensation de toucher est liée au jugement d'existence. Ça, c'est sûr. Mais je ne crois pas que ce soit le toucher de mon corps qui soit premier. Je ne crois pas. C'est une question. On peut se poser la question. Je crois que c'est le toucher de l'autre qui est beaucoup plus manifeste que le toucher de mon corps. Donc je découvre dans un jugement d'existence l'autre. Alors, nouvelle question, est-ce que c'est grâce à la négation que je découvre l'autre, ce qui n'est pas moi? Est-ce que la négation est impliquée dans le jugement d'existence? C'est important de se poser la question. Alors je me la pose ici, génétique, de façon génétique. La découverte du jugement d'existence chez l'enfant. Il est sûr, et ça tous les psychologues le notent, il est sûr que dans le développement de l'enfant, vous comprenez que c'est dans le développement de la vie de l'enfant, devenant adolescent, devenant homme, que la psychologie trouve son domaine. Ce n'est pas dans la contemplation. Elle trouve son domaine dans ce point de vue-là. Ce n'est pas en regardant la personne dans sa structure. Et c'est le devenir. C'est très, très significatif, ça aussi. Parce que dans le devenir, cette parole si forte d'Aristote et qu'on peut soi-même découvrir, dans le devenir, la puissance est première à l'acte. L'aspect potentiel est premier à l'acte. C'est très très important de comprendre ça. Donc dans la procréation, la puissance est première à l'acte. Alors si vous voulez que l'âme soit créée dès le premier instant, expliquez la croissance. Puisque l'âme, c'est l'acte. Il faut bien saisir ça, parce que c'est très très important. Alors, puisque la puissance est première par rapport à l'acte, c'est peut-être le sourire et la négation qui sont... ça s'oppose, hein. Quand vous souriez, vous dites oui. La négation montre la présence. Alors, est-ce que l'estimatif suffit pour ça? Je crois. Et une estimative peut être liée déjà à une intelligence affective. Et l'intelligence affective peut être très liée à l'estimative et être cependant déjà l'intelligence. Mais ça, très difficile à préciser. Ce qui est sûr, c'est que sourire, c'est un lien. Donc c'est une union, c'est dit oui, c'est affirmatif. Tandis qu'au contraire, la négation, c'est la séparation. Et la négation apparaît surtout au niveau moral. Le sourire est au-delà du point de vue moral. Est-il moral? Je ne sais pas. Je dis moral, oui, qui serait le point de vue de l'intelligence, qui serait une addition. Est-ce que le sourire est par mode d'imitation? Qui serait alors la cogitative, l'estimative? Et la cogitative serait là pour permettre ce point de vue du sourire. Je suis en présence de quelqu'un qui me fait du bien, quelqu'un qui m'aide, je souris. Quand je suis en présence de quelqu'un qui me fait du mal, je ne souris plus. Je serre des dents. Puisque je ne peux pas le manger, je serre les dents. Et je fuis. Tandis que sourire, pas du tout. On est accueillant, on est présent. La cogitative peut expliquer ça. Un lieu agréable, mais sans doute qu'il y a déjà un éveil d'une connaissance affective, d'une intelligence affective. La négation est quelque chose de beaucoup plus intellectuel. C'est vraiment l'intelligence pratique et morale. Intelligence qui fait appel à l'obéissance ou l'intelligence qui fait appel au refus d'obéissance. Parce que c'est à l'égard de l'obéissance que les premiers non apparaissent. Si vous ne commandez jamais rien, il n'y a pas de raison de la négation. Alors il y aura des négations tout simplement au niveau colère. Parce que le repas n'est pas prêt à l'heure qu'il fallait. Et qu'on commence à avoir faim. Alors, on pleure, vous voyez. Pleurer est une négation affective. On m'abandonne. Attention à moi, on ne s'occupe pas de moi, alors on pleure. Mais c'est pas une vraie négation, pleurer. C'est négatif, tandis que, au plan obéissance, on dira non. Le premier non explicite quelque chose d'intellectuel. Il n'y a pas de négation en dehors de l'intelligence. Et c'est le caractère propre du conditionnement intellectuel dans sa première manifestation. Vous voyez, le oui est caché par la cogitative. Et je ne sais pas si c'est la cogitative qui le dit ou si c'est l'intelligence. Les deux sont liés. Dans la négation, il y a nettement une explicitation de l'intelligence, puisque seule l'intelligence peut dire non. La cogitative, quand quand elle est en face d'un retard ou de quelque chose qui ne va pas, fait qu'on pleure. L'opposé du sourire. Le contraire du sourire. On pleure. On est de mauvaise humeur. On rejette. On n'est plus présent. Dans la négation, c'est l'intelligence. Et donc, c'est là un moment très important, puisque c'est l'apparition de l'intelligence pratique. Et voyez que cette négation, elle naît à travers un développement normal d'une intelligence affective. Normalement, la période du sourire dure jusqu'à la première négation. Et la première négation est une rupture par rapport au sourire. On ne veut pas se lier, obéir, coopérer. Mais c'est de l'ordre pratique. De sorte qu'on peut dire, si vous voulez, qu'avec la négation, commence un certain sens de la responsabilité. C'est le premier réveil moral, je crois. On pourrait dire que c'est le sourire, mais c'est trop lié à la cogitative, c'est trop lié au sens, au monde sensible. Tandis que la négation est une rupture, donc c'est beaucoup plus net par rapport à un lien. Alors, il y a ordinairement, après la négation, il y a un moment d'ouverture, de reprise. Il faudrait voir comment, là ce serait ça, c'est d'ordre pédagogique, comment on peut répondre à la négation de l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a de plus adroit ? Quand l'enfant dit non, qu'est-ce qui est le plus adroit pour éduquer ? Est-ce qu'on peut enfoncer celui qui nie ? On peut l'enfoncer dans sa séparation, ce qui est très mauvais. Parce que là, il peut y avoir des ruptures. Vous voyez, il faut commencer à lui donner une fessée, ça ne va pas du tout. Il s'en rappellera. Tandis que si vous essayez d'éduquer, éduquer c'est coopérer, hein. C'est d'aider quelqu'un devant les obstacles. Si devant le premier obstacle, l'éducateur et celui qui est éduqué fuit, c'est une excellente éducation. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus d'éducation. Et très souvent, remarquez chez les éducateurs, ce serait une petite enquête à faire. Il faut le faire sans avertir l'éducateur. Voir comment il répond à la négation. Il faut demander à une mère comment elle répond à la négation, à la première négation de son enfant. Il peut s'obstiner. Tu n'auras pas de gâteau. Tu n'auras pas de dessert. Si tu veux pas. Je t'affirme par trois fois, et puis s'il ne va pas, il vient de suivre, alors on s'entête. Et la négation devient de plus en plus négation. Et la punition est encore un aliment qui nourrit la négation. J'ai eu raison de nier, puisque il y a la colère. Ça c'est de l'ordre pédagogique. Mais c'est important de voir que c'est au moment de l'éveil de l'intelligence que la pédagogie prend toute sa signification. Puisque c'est un art, la pédagogie c'est un art qui doit coopérer au vivant. Un vivant qui est faible, mais c'est un art coopérant. C'est pas une science, hein, l'éducation. C'est avant tout un art. Un art qui présuppose une connaissance, mais des connaissances philosophiques, pas psychologiques. L'art d'éducation repose sur la philosophie de l'homme, sur l'éthique. on doit l'amener à quelque chose de plus. Parce que les négations peuvent provenir d'une quantité de raisons. Ça peut provenir de la passion, de l'orgueil qui naît. Et au fond, chaque fois, la réponse est différente. La négation apparaît toujours la même, mais elle est chaque fois différente quant à son fondement. Et donc il faudrait regarder là attentivement, je ne le fais pas maintenant, c'est pas. On serait dans un point de vue art pédagogique, on devrait regarder ça attentivement. D'où naît la négation? Et la négation peut être à certains moments uniquement une volonté d'autonomie. Alors on dit, et ceci c'est sûrement, surtout pour les grandes personnes, je ne crois pas que c'est la première négation. Mais quand la négation peut se répéter, quand on a 15 ans, on peut dire non. Quand on a 18 ans, on peut dire non. Et la négation à ce moment-là n'a pas du tout la même signification que la première fois. Elle est de plus en plus intellectuelle et affective. Donc il y a là une importance très très grande à la négation. On peut regarder qu'est-ce qu'il y aura à partir de là comme développement. Je crois que c'est à partir de là que je peux considérer l'éveil de l'intelligence pratique. Ce qu'on aura appelé traditionnellement l'âge de raison. L'âge de raison, c'est l'éveil d'actes prudentiels. Et l'éveil d'âge prudentiel, de l'âge prudentiel, de la prudence, c'est le moment où l'intelligence pratique, organisatrice, s'éveille en moi. Pour qu'il y ait un acte rationnel, prudentiel, il faut toujours comparer ce qui est donné immédiatement à la finalité, à mon désir d'atteindre la fin. Ça me semble très net. Façon qui reste quelquefois très 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 vague, mais quand même, je veux devenir un homme, je veux devenir comme papa, comme maman, vous voyez, le sens, parce que au point de départ, la finalité est très voilée dans la causalité exemplaire. La causalité exemplaire joue dans l'éducation le rôle de finalité pour le gosse. Regarde papa, regarde maman, regarde le grand frère, regarde l'ami plus âgé qui fait ça beaucoup mieux. Il faut retenir comme ça. Le souci de marcher dans les pas de quelqu'un, c'est la finalité. Et ça éveille le choix de moyens en vue de cela. Il faut que tu te lèves le matin tôt, il faut que tu te fasses ça, ton devoir, pour pouvoir faire telle chose. Et donc il y a un certain éveil de l'action pratique de ce qu'on doit faire en vue d'atteindre une certaine finalité ou une certaine cause exemplaire. Alors cet éveil de la prudence ou d'acte prudentiel, c'est-à-dire d'acte raisonnable, c'est la prudence qui permet de rationaliser, d'humaniser les passions. Et de faire que mes passions deviennent des passions humaines. Je mets au service d'un certain idéal. La cause exemplaire conduit à l'idéal. Et tout idéal se fait à travers la cause exemplaire. Tout valeur, puisque c'est très à l'ordre du jour. Les valeurs, c'est dans la ligne de la causalité exemplaire. Parce que la cause exemplaire valorise les moyens qu'on choisit, en leur donnant tout leur sens, en leur donnant leur valeur, leur efficacité. C'est par là où je vais atteindre.
Comment voulez-vous discerner
de l'âge adulte, c'est de discerner l'imagination de l'intelligence. Alors ça ne se fait pas par le point de vue des passions. Parce que le propre des passions, c'est de maintenir la confusion. On aime de maintenir la confusion au point de vue passionnel. Oui, parce qu'il n'y a ni bien ni mal. Alors c'est très agréable d'être dans un domaine de l'innocence passionnelle. La passion est toujours innocente. Alors on n'arrive pas à progresser vraiment. Et vous savez qu'il y a eu Freud, le développement affectif, Piaget, le développement de l'intelligence. Mais non Piaget comme il reste positiviste, parce que Piaget est positiviste. Donc il ne fait pas de discernement entre l'imagination et l'intelligence. Et ne faisant pas ce discernement-là, il ne découvre pas la finalité. Il découvre que la cause exemplaire. Je crois que toute psychologie qui demeure une psychologie non portée par une philosophie